Sur le fil, une émission de création sonore.
Ni philharmonique, ni décousu.
Enfin un peu quand même.
Une émission qui donne du fil à retordre, qui fait des nœuds, qui en mêle, qui s'en mêle, qui démêle.
De fil en aiguille, des jeux d'arpètes, reportages, fiction, entretiens
et autres bouts de ficelle.
Une émission de création sonore. Une heure de tout et de rien,
fabriquée par des transpédéguines féministes
ou des postes queer un peu timbrés.
Une émission de haute voltage,
fréquence.
De 18h à 19h, tous les deuxièmes lundis du mois, sur Radio Galère, 88.4 FM et en DAB+.
Sur le fil, mois de juillet, chaleur dans le studio.
Bonsoir.
Salut.
Salut. Et bonsoir.
Alors, une fois j'étais à une soirée, c'était une soirée à thème, mais c'était un thème un peu particulier. C'était la soirée de la honte. Alors dit comme ça, j'avais pas du tout envie d'y aller au début, vous vous imaginez bien. Mais ensuite, on m'a expliqué qu'on pouvait, si on le souhaitait, ramener une photo de notre adolescence chérie. Une photo qui nous faisait un petit peu honte à l'époque. Et on pouvait, en arrivant, aller la coller sur le mur de la honte, cette photo. À côté des photos de toutes les autres personnes qui avaient bien voulu se prêter à l'exercice. Et il y avait une sacrée collection de photos. Des photos de classe avec l'appareil dentaire, vous voyez, la coupe au carré, le carré plongeant. La photo de l'enfant de cœur qu'on avait été pour certains, certaines. La photo du couple hétérosexuel avec, vous savez, Jérémy, le mec blanc à dreadlocks au lycée. Des choses comme ça quoi. Et on pouvait aussi amener quelque chose à manger ou à boire qui nous faisait honte. Donc il y avait du Baileys, du Soho, des choses comme ça. Les gens avaient ramené beaucoup de Nutella parce que c'est vrai qu'on en mange beaucoup en cachette, un peu avec la honte au ventre, etc. Et après ça a commencé à déraper sur la musique. Donc on va pas vous faire ça aujourd'hui sur cette émission sur le fil. Sur la honte, on va pas vous passer des morceaux honteux parce qu'on n'aime pas ça. Mais en tout cas, on va essayer d'aller faire du hors-piste sur ce thème de la honte parce que c'était le mois des fiertés et c'est ce que ça nous a évoqué aussi. Et en ce moment, c'est une période de honte sur la France. Donc on voulait également parler de ça. C'est sur le fil, c'est une fois par mois et c'est parti.
Le mois de juin, donc, c'est le mois des fiertés pour les trans, les gouines et les PD. Des fiertés qu'on revendique, le retournement du stigmate, le dépassement de la honte. Moi, j'ai longtemps ressenti de la honte, une honte de ma sexualité avant même d'avoir une sexualité. J'ai grandi dans un milieu tolérant. Je me souviens, quand j'étais enfant, ma mère nous avait dit qu'il fallait pas dire PD comme une insulte parce que si des PD nous entendaient, ils pourraient se sentir insultés. Donc, il y avait des PD, mais on ne rencontrait jamais. La limite de la tolérance. On accepte les différences, mais on reste dans les normes. Depuis un moment, je vis plutôt bien ma vie de PD. Aujourd'hui, la honte que je ressens, le plus souvent, elle est plus sexuelle, elle est nationale. Aujourd'hui, c'est les mouvements nationalistes qui parlent de fierté et d'identité, qui veulent s'approprier un territoire, une histoire, contrôler les mouvements et les échanges. Avec d'autres, j'essaye de lutter contre cette fierté nationale, de défendre une politique d'accueil, de soutenir des personnes qui arrivent. Mais en même temps, j'ai grandi sur ce territoire, j'ai hérité de cette histoire, et souvent, je ressens de la honte dans ce qui en est fait. Le mois dernier, je suis allé à Paris. À l'arrivée à la gare de Marne-la-Vallée, le train s'est vidé. À la fin, il restait sur le quai un groupe, une grosse dizaine de contrôleurs, une petite dizaine de flics et de jeunes avec des chaussures usées mais aucun bagage. Les contrôleurs les avaient sortis du train, les flics les ont sortis de la gare. Ils étaient perdus à l'entrée de Disneyland. Je leur ai montré le RER, on a discuté pendant le trajet. Abdulrahman et Oumar, âgés de 16 ans, originaires de Côte d'Ivoire. Ils avaient traversé le Sahara, la Libye, la Méditerranée, l'Italie. L'un d'eux avait reçu une OQTF à Nice avec une date de naissance modifiée par les flics. Les deux n'avaient ni mangé ni bu depuis la veille. J'ai cherché des contacts d'associations et d'avocates à Paris. J'ai pas trouvé de lieu pour qu'ils puissent passer la nuit. Je leur ai donné un paquet de gâteaux. Ils m'ont remercié. J'ai eu honte que les seules réactions à leur arrivée soient des contrôles et des expulsions. Et j'ai eu honte aussi qu'ils se sentent si reconnaissants pour 3 gâteaux et 2 infos. Deux semaines après, toujours à Paris, des jeunes exilés avec des militantes, des avocats, des élus ont tenté de s'installer devant le Conseil d'État. Depuis plus de deux mois, 450 jeunes vivaient dans une ancienne école en attendant d'obtenir la reconnaissance de leur minorité et une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Sans attendre la décision d'expulsion du squat, ils et elles avaient décidé d'installer un campement sur une place publique pour rendre visible leur situation, comme d'autres l'avaient déjà fait en décembre dernier. Et cette fois, les flics les ont virés avant même d'avoir le temps de s'installer, avec des coups, des insultes, des arrestations et l'encerclement, puis la dispersion des jeunes. C'était le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés. RESF a publié un communiqué « Soutien aux mineurs du Palais Royal, honte à ceux qui les violentent ». Moi j'ai eu honte en voyant les vidéos des jeunes gazés et matraqués. J'ai eu honte aussi en pensant qu'avec les infos que je leur avais données, c'était possible qu'Abdulrahman et Oumar soient sur la place. Le samedi suivant, à Marseille, SOS Méditerranée organisait un concert de soutien à côté du Mucem. Quand je suis arrivé vers 19h, une centaine de personnes faisaient la queue pour entrer, et en haut d'un immeuble du panier, à côté, à la fois éloigné et visible, une banderole avec écrit « Qu'il retourne en Afrique », signée Defend Europe, le groupe local des générations identitaires. Le même groupe qui avait été condamné en 2018 pour avoir attaqué physiquement des membres de l'équipe d'SOS Méditerranée dans leurs locaux. Moi j'allais au concert avec un collectif qui accompagne des jeunes exilés isolés, qui avaient reçu des invitations d'SOS Méditerranée. J'ai eu honte quand les jeunes sont arrivés, au moment où tout le monde regardait la banderole. Même si j'aurais dit que le concert s'était aussi organisé pour qu'ils sachent que tout le monde ne pensait pas ça. Et le samedi suivant, c'était le jour de la Pride. Depuis le début du mois, dans les marches des fiertés, on retrouvait des banderoles et des cortèges contre la loi Darmanin, le projet de loi sur l'immigration annoncé par le gouvernement, pour limiter encore un peu plus l'accès au séjour, à l'asile ou à la santé pour les exilés. Mais à Marseille, le collectif organisateur a publié la veille un communiqué annonçant le report de la marche. La préfecture de police a décidé de se désengager du dispositif de sécurité pour assurer d'autres missions. Après trois jours d'émeute, suite à la mort de Naël, les flics ont préféré stationner en blindé dans le centre ou dans les quartiers, ou arrêter des ados pour qu'ils soient jugés et emprisonnés, plutôt que de détourner la circulation automobile sur le parcours de la Pride. Un cortège autonome a quand même pu montrer la solidarité entre les queers et les émeutes, contre le racisme et la répression, mais j'ai eu honte de cette concurrence organisée entre la fierté des queers d'un côté, et de l'autre la colère des jeunes racisés, de l'immigration postcoloniale et des quartiers populaires. Honte nationale et fierté queer sont liées, mais leur lien continue toujours d'évoluer. Un mois avant la marche de Marseille, à Saint-Denis, avait lieu la troisième Pride des banlieues, avec des revendications locales pour faciliter l'accès au logement des personnes LGBTI vivant dans les quartiers populaires, et aussi pour que les luttes LGBTI ne soient plus utilisées pour stigmatiser les habitants et habitantes des quartiers populaires.
Je vais vous montrer une marée de drapeaux arc-en-ciel dans les rues de Saint-Denis ce week-end à l'occasion de la troisième édition de la marche des fiertés des banlieues.
C'est pas exactement les mêmes discriminations que les personnes LGBT qui vivent ailleurs en France, et c'est pas exactement les mêmes discriminations que toutes les personnes, par exemple, issues de l'immigration.
On fait face à des territoires qui sont complètement délaissés par les services publics. Et il est ultra important de mettre au centre des luttes des personnes les plus marginalisées.
L'après des banlieues, il y a cette particularité de montrer qu'il y a des personnes queer ailleurs qu'en Paris, mais aussi revenir aux bases des prides qui sont manifestées et réclamer des droits.
À cette société qui ne respecte pas les trans.
C'est une cour de récréation dans les années 50. Antion et Iñaki jouent aux billes. Mais ça ne se passe pas très bien. Antion accuse Iñaki d'avoir triché. Iñaki dit que c'est pas vrai. Antion décide qu'il a gagné de toute façon. Iñaki s'énerve. Non, c'est toi qui as triché. Puis il s'arrête net, terrifié par ce qu'il vient de se passer. Il a crié en basque. L'espace d'une seconde, il a oublié la règle. Antion, lui, en revanche, jubile. Il prend le bâton dans sa poche et le jette sur Iñaki, puis s'en va en courant, libéré du fardeau. Iñaki regarde le bâton tomber à ses pieds, puis relève la tête. Tout le monde dans la cour a vu ce qui s'est passé. La maîtresse aussi. Trop tard pour le cacher. Il n'a plus qu'à espérer qu'un autre enfant ait lui aussi un moment d'inattention et se mette à parler basque. Mais ça arrive plus trop maintenant. Il a fallu à peine quelques semaines pour faire disparaître leur langue maternelle. Il faut dire que la technique est redoutable. À la fin de la journée, celui qui a le bâton est puni. Iñaki ne se fait pas d'illusions, Il est déjà tard. La récré est bientôt finie. Il met le bâton dans sa poche, se lève, toise Antione partie se réfugier de l'autre côté de la cour. Peut-être qu'à ce moment, il choisit d'être fier. Et il a très envie d'aller se battre. Mais la maîtresse le regarde, à l'affût de sa réaction. Alors il se rassied, avec ses billes et sa colère. Demain,
bihar mendekatuko naiz.
Il se vengera.
Humiliatu.
Humilié.
Pertsona bat apaldu.
Atteindre quelqu'un dans son amour propre.
Norberarekiko duen maitasuna.
Sa fierté, sa dignité.
Arrotasuna eta duintasuna kaltetzeraino onkituz.
En cherchant à le déprécier dans l'esprit d'autrui ou à ses propres yeux. Comment finir une guerre?
Gerla bat nola bukatu.
Une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque.
Euskal Herriko gatazka armatuaren bukaeraren historio bat.
Une série documentaire de Myriam Prévost, réalisée par Anna Bui, pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte Radio.
Arte Radiok ekoizturik.
Sur le fil. Radio Galère.
Bonsoir.
Pour remettre le César de la meilleure réalisation la nuit dernière, Emmanuel Berco et Claire Denis s'avancent sur la scène de la salle Pleyel.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à...
Roman Polanski pour J'accuse.
Il confirme son statut de recordman de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations Tess, le pianiste, Ghost.
L'Académie remettra ce César à qui de droit ce soir à l'issue de la cérémonie.
Puisqu'ils ne sont pas présents.
Peut-être.
Emmanuel Berco ne termine pas sa phrase. Le silence revient, gêné. Une personne hue timidement. Pas timide, Adèle Haenel, elle, se lève, se dirige vers la sortie en criant « C'est la honte ».
c'était un échantillon de ce qui s'est passé le 15 juin dernier à Marseille devant le Silo. On était 200 environ, 200-300 devant cette salle de spectacle pour remettre la honte sur Depardieu et son monde. Depardieu qui est accusé par 14 femmes d'agression sexuelle et de viol et qui pour autant est en grande tournée à chanter Barbara. Voilà, on était là pour les regarder tous dans les yeux, le public, les flics et huer Depardieu, toute son impunité.
Au Chili, suite à la dictature, il y a un phénomène qui, un mode d'action en fait qui s'appelle El Cacerolazo. Et du coup, c'est le fait d'aller taper sur des soupières, des casseroles et tout ce qu'on veut. Donc, ça peut être utilisé en manifestation, mais aussi ça s'utilise pour ce qu'on appelle les funas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une funa ? C'est en fait, c'est utilisé aussi pour dire quand on tricarde quelqu'un. Et donc, en fait, les personnes directement affectées par la dictature, ben, c'est en fait la totalité de la population au Chili, avaient pris pour habitude de quand une personne qui avait participé à la dictature, à la torture notamment, était identifiée dans un quartier, les personnes se déplaçaient chez cette personne-là. Chez ce tortureur ou cette tortureuse, on pourrait dire comme ça, pour taper sur des casseroles et pour lui mettre la honte littéralement, pour que la personne elle soit identifiée et pour que la honte change de camp. Et c'est une pratique qui existe encore aujourd'hui parce que bon nombre de bourreaux n'ont toujours pas été jugés et vivent dans la société civile tranquillement, encore aujourd'hui.
La honte, a-t-on entendu dire par Adèle Haenel il y a 3 ans, en février 2020, à la cérémonie des Césars, où l'on pouvait voir le cinéma français récompensé, de nouveau, Roman Polanski. Et même si elle n'aura pas été la première ni la détentrice d'un ras-le-bol, ce cri et son départ, suivi de plusieurs autres professionnels de la salle, aura bien fait couler de l'encre et du pixel sur la toile. La honte aussi pour le 49-3 qui se sont enchaînés dans un déni de démocratie, l'imposition d'une réforme des retraites et dont le gouvernement fait sien le mot répression, et ce depuis longtemps maintenant. La honte pour les images de Mantes-la-Jolie en décembre 2018 où la police maintenait à genoux des lycéens, les mains derrière le dos, face au mur. Humiliés, insultés par la police. L'IGPN aura déclaré un non-lieu. En 2022, une nouvelle enquête commence à peine. La honte d'avoir toutes ces images de vidéosurveillance ou de portables venant démontrer les assassinats policiers. Depuis, Adèle Haenel a renoncé et s'est retirée du monde du cinéma, peu de temps avant le dernier Festival de Cannes de 2023. Festival de Cannes, dont le film d'ouverture de Mai Wen, réalisatrice ayant à de nombreuses reprises dit son opposition au mouvement féministe et réitéré son soutien à, de nouveau lui, Roman Polanski, réalisatrice du film d'ouverture, donc mettant en scène Johnny Depp, acteur ayant battu sa compagne Amber Heard, puis qui l'aura poursuivi en justice pour diffamation, procès surmédiatisé et dont les montages TikTok auront dévoyé le contenu des audiences afin d'humilier la victime ici sur le banc des accusés. Procès qui se terminera par la condamnation de l'actrice à verser dommages et intérêts à l'acteur, lui aussi condamné à en verser, ce dont on entendra moins parler. Depuis, un documentaire revenant sur l'affaire démontre comment l'opinion publique aura été manipulée et Amber Heard traînée dans la boue, déclenchant plusieurs procès en diffamation par plusieurs célébrités, Marilyn Manson contre Evan Rachel Wood, qui l'avait battue, harcelée et enfermée chez eux. Ce que l'actrice racontait, la voix nouée avec courage. Seulement depuis, il a lui, à l'inverse de son ami Johnny Depp, perdu son procès. La honte de ces figures et institutions qui protègent ses agresseurs et complices, les invitent et les réhabilitent. Et pourtant, cette solidarité de classe est-elle si inattendue et étonnante de la part d'une caste bourgeoise raciste et patriarcale ?
pourquoi je suis Act Up Paris? Parce qu'Act Up est une association activiste de lutte contre le sida et le prouve tous les jours. Parce que je suis malade. Parce que j'ai 74 T4, cellule de l'immunité. Parce que mes amis sont morts et continuent de mourir dans l'indifférence générale. Parce que je n'ai jamais eu honte d'être PD et séropo. Parce que les revendications d'Act Up sont aussi les miennes. Parce que, m'étant résigné à mon sort, je voulais mourir et que maintenant, j'ai envie de vivre pour pouvoir me battre et hurler avec Act Up. Parce qu'Act Up m'a redonné espoir. Parce que le sida, j'en ai marre. Parce que, malgré tout, je sais que je vais crever du sida et que seul Act Up fera mon enterrement politique et manifestera dans la rue avec mon cadavre. Bernard.
Ma. Yampi Mara. Je te demande pardon en soninké. Pardon d'avoir eu honte de qui t'étais, de là où on habitait, de notre pauvreté, de tes vêtements colorés si bien repassés, de ton accent différent, du fait de ne savoir ni lire ni écrire, de tes bâillements longs aux réunions d'école, t'y comprenais rien. Je te traduisais tout en simultané. Je corrige. Tu comprenais, mais tu ne comprenais rien aux implicites. J'avais honte du fait que tu ne travailles pas. En dehors comme Baba, dont j'avais honte de ses métiers. Cantonnier, éboueur. Honte du métier de mes tantes, femmes de chambre ou femmes de ménage souvent. Honte de tout compter en termes de thunes. Pas un franc de plus, pas un franc de moins. De t'accompagner chez l'assistante sociale pour nos départs en colo. C'était que pour nos départs en colo, chez l'assistante sociale. Où je te traduisais tout en simultané. Honte des longues files d'attente devant la préf pour demander le renouvellement des titres de séjour. De vos titres de séjour et de celui de nos voisines. D'avoir cette sensation d'être né dans la mauvaise famille, au mauvais endroit. D'avoir la sensation qu'on pouvait être d'autres, mieux, ailleurs. Honte des mensonges lors de notre retour au pays pour les vacances. Vendre et défendre une condition de vie qui n'était pas la nôtre. Apporter des milliards de cadeaux auxquels nous n'avions pas le droit, avec des économies serrées à la ceinture. J'ai honte d'avoir eu honte, ma. Je fais ce que je peux. C'est toujours ce que tu me disais. Tu avais raison. Tu faisais ce que tu pouvais et tu as fait ce que tu as pu. En revanche, je n'ai jamais eu honte de ta capacité à rire de tout, de ton humour. Lui, Baba, on le surnommait Somme sur pattes. Et toi, ma clown tempête, parce que tu étais drôle, mais tu avais aussi, comme lui, cette colère bien ancrée. Oui, parce que la vérité vraie, c'est que tu avais une puissance à déraciner les montagnes. Je n'ai jamais eu honte de votre volonté à être ensemble, à faire communauté, toi, tes copines et mes tantes, à vous organiser avec vos tontines pour les morts, les naissances, les mariages, les accidents de la vie, les maladies, les cancers, les cassages de gueule de vos maris, de nos darons. J'ai adoré assister à ces réunions, sans durée, à ces tontines. La honte n'a jamais été du côté des fous rires dans le RER, de notre organisation carrée à toute épreuve. Raide est de constater que la honte a entièrement fait partie de notre éducation, de celle que tu nous as inculquée, parce que c'est toi qui étais avec nous à temps plein à la maison. Du côté de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, de ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, de ce qui se pratique en intime et de ce qui se pratique dehors, je dois te dire que choyés sont mes vêtements colorés, que j'ai défendu dur comme fer les parents aux accents qui dénotent de la norme, que me rendre compte du stigmate qui ne t'appartenait pas m'a mise à terre, que j'ai encore traduit simultanément avec fierté, que mon histoire compte, que grandir là où j'ai grandi m'a appris, que ça explose dans ton quartier maison actuellement, que ça explose dans beaucoup de nos quartiers populaires, un peu plus depuis le 26 juin 2023, que les discours des médias qui t'avaient choqué en 2005 sont les mêmes, en pire, aujourd'hui, un peu plus décomplexés. Ce serait de votre faute, à vous les parents. Je me souviens de toi et des tantes et de vos copines avec nous à l'époque un soir face aux flics. C'était chaud. Vous étiez là. On avait peur de vos peurs, mais vous étiez là. Vous l'êtes toujours dans mes pensées dans ce moment particulier. Oui, Ma, la police tue encore. La police tue encore. Je te l'ai dit de ton vivant. Je te le redis. Pardon d'avoir eu honte. Merci. Merci de nous avoir éduqués comme tu l'as fait. J'ai grandi. Je suis un peu moins conne. J'ai appris. Je suis loin d'être heureuse de tous les pans de mon enfance et de mon éducation. Mais j'ai compris un tas de trucs. Ces mots d'excuses sont pour toi, mais aussi pour Magou, Mariam, Kumba, Awa, Fulemata, Fune, Tuntu, Badji, Maimouna, Asa, Kandia, Uleimatu. Merci à ces femmes, à ces meufs, de m'avoir permis d'être qui je suis aujourd'hui. Radayam Pimara.
Dans ma tête, c'est comme ça, une chasse aux hontes et aux fantômes sylvestres. Hier, j'ai parlé longtemps avec mon ami qui disait « c'est bien aussi de ne pas détester son passé ». Alors je lui raconte ça. Le territoire d'où je suis né n'a aucune capacité à nous propulser dans le monde. Le territoire duquel je suis apparu, il tue les rêves, mange les aspirations. C'est une zone aplanie, morne, mais verdoyante par endroits. Je revois comme ça les groupes de garçons avec leurs vêtements en plastique et ma mère qui voulait mettre du velours et du coton kaki. Ils me regardaient, et avec leurs yeux clairs sur leur visage déjà boursouflé par la fatigue, ils me disaient « On ne sait pas vraiment pourquoi, mais tu es notre ennemi. Tu es notre ennemi pour mille raisons qui ne sont plus vraies, des raisons qui ne sont plus vraies ni pour nous, ni pour nos parents. » Ils ont des traits que j'ai longtemps méprisés. Je leur crache dessus dans mes souvenirs. Ils me harcèlent, et moi je regarde mes parents, un arabe et une fille d'ici, et je ne comprends pas leur choix de nous infliger ça. Heureusement, il y a la campagne et sa douceur. Il y a les bosquets et les marais qui les relient, mais toujours on croise les garçons en scooter devant le collège, au port, dans les rues des lotissements que j'arpente seul sur mon BMX rougeoyant. Mon ami m'écoute, je lui dis comment j'en suis arrivé à leur pardonner. Je raconte tout ça, le lieu de ma jeunesse est un marécage. C'est vrai, c'est un lac avec des marais autour. C'est un monde de rivalité mélangée et floue, je n'ai jamais su où se trouvaient mes alliances, je ne comprenais pas d'où venait cette méfiance et ces regards sur mon père. Et dans les rivalités de gamins peuplées de hurlements et de joie, une leçon. Comme on y déteste les Arabes, on y déteste les PD. Et puis ce défi de ne rien détruire de mon arabité et de mon désir. Le jour où j'ai ouvert les yeux, c'est le jour où mon père m'a giflé parce que je portais ma gandoura comme une robe bustier. D'un coup, j'étais à la fois son fils chéri et son fils suspect. Il a entrepris de m'observer, d'être attentif aux faits et aux gestes qui m'amèneraient vers une masculinité intolérable. Mes cheveux doivent être toujours très courts, rasés. C'est fini les boucles sur le front. Je pleurais en regardant mes accroche-cœurs sur le sol du coiffeur de la galerie commerciale. Il fallait désormais surveiller mes mouvements, l'intonation de ma voix, la façon que j'avais de m'asseoir ou de rire. Et puis, il n'y a plus eu que mon père. Devant tous les hommes et les garçons, j'ai voulu camoufler ce qui venait naturellement. Dans cette logique, il me force à faire du sport. Je me souviens du football, je me souviens de la douleur, je me souviens des vestiaires. Je peux encore sentir l'odeur de la honte et le goût de la transpiration sur ma langue quand l'angoisse revient. Je peux toujours sentir l'humidité de la pelouse et leurs chaussures de foot qui résonnent contre mes os. Puis il a essayé de m'apprendre l'arabe. Je me souviens de ma peur d'articuler ses mots plein la bouche. Je me souviens être très méchant. Je me souviens me moquer de sa culture. Je me souviens confondre sa culture et la rage, sa culture et la main qui vient trop vite derrière la tête. Il me semble me souvenir de ma mère blanche qui veut garder son fils pour elle. Je me vois tout confondre et penser que si elle adoucit mon quotidien et qu'il le violente, c'est à cause de sa culture. Et puis il m'a appris le shahada et en fait j'ai adoré ça. Je sens que je me soigne progressivement. La colère coloniale et la brutalité du deuil me guérissent. Je comprends mieux mon père, je me dis, trouver qui je suis ne doit plus être le centre de ma vie. Au lieu de ça, je mets de l'huile d'olive et du jojoba dans mes cheveux. Des heures durant, je les peigne, ils sont noirs de henné, ils sont brillants et souples. Je les tresse. Dans nos caresses avec Eve, ses cheveux frisés se mélangeaient avec mes boucles. Le grand feu avait pris tellement de moi que je n'ai aucune idée de ce qui m'en reste. La culpabilité de se réinventer et le privilège que c'est également. La dépression qui vient au bout d'elle-même et me laisse sans clé pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà, c'est ça, un grand désert fertile. Je sais mentir et couper les ponts, ça je sais le faire. Isoler des parties de mon histoire et les faire taire. Ne laisser personne en avoir connaissance pour recommencer un nouveau mirage. Ça je sais le faire, le reste, je ne sais pas. Vivre en dehors de mes souvenirs, je ne sais pas. Avancer avec intention et volonté, c'est la première fois. Il me faut un projet pour ma vie, tout le monde a ça. Un plan sur 2 ans, moi. J'ai rien pour l'instant, mais je commence à imaginer, dans ce capharnaüm de l'ennui, un chemin. J'ai des envies, enfin. Il faut les accalmer, les acclamer. J'ai des choses à dire. Déambuler avec ce sentiment dans ma tête, ça tape, ça tape, ça tape. Comme quand tu croises leur visage moribond, fier de leur matraque, les hauts flics. Envie de casser des choses et d'écrire avec des débris. Mon nom et celui des gens comme moi. Envie de leur dire avec une voix tonitruante, pour info, on arrive et on va devoir peut-être un peu piétiner vos grands-pères. Il faudra nous laisser dire nos peines, sans quoi vous aurez pour toujours la guerre dans vos nations étêtées. Ou encore, il faudra grand ouvrir vos oreilles et rester silencieux, chaque chose en son temps et le nôtre est venu. Bref, envie de taper sur les murs des musées où on expose nos différences en toc, en stuc et en plastique d'ivoire. Bref, envie de casser les nez qui hurlent des choses sur les écrans de télé dans les kebabs ouverts sur la rue. Combien de temps encore accepterons-nous tout cet enfer ? Ce sont les éléments dévoilés et les secrets éternels qui forment ce ferment dans lequel je me réconcilie. Je ne suis pas seul à patauger dans ces histoires d'héritage chaotique. Diaspora kids are so cringe, affirme une amie. Mais il faut voir cette faculté incroyable qui nous est donnée de sortir de sa culture et de nous implanter ailleurs, autrement, comme on veut. Je me dis que la diaspora, c'est comme un grand troupeau de chimères. Ce sont des gens qui font des enfants en leur racontant un retour au pays impossible, et ces mêmes gens qui en font d'autres en leur disant « Je sais pas ce que nous sommes, débrouille-toi, invente. » L'horizon des possibles, ceux de se former à la faveur du vent et des diversités du monde. Le regard de nos parents embarrassés et ces visages au bled qui sourient de nos gestes déplacés, de nos mots mal prononcés. Alors oui, il nous faut subir conjointement les 10 000 barres de pression de la France, mais n'est-ce pas la beauté de la chose ? On pousse malgré ça partout sur l'hexagone, on invente des solutions pour porter les marques de l'indigénat et du futur, les deux à la fois. Comment sortir du monde ? Marwan Bakhti.
Jump for you into the flame. try to go forward with my life. I just feel shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Shame is the shadow.
Révélation. Quand j'ai annoncé ma transition de genre à mes parents, la réaction de mon père a été de se murer dans la honte. C'était trop pour lui, il a fait rupture avec moi. Il avait déjà honte et peur de mes choix anticonformistes de militant plutôt que de salarié. Alors là, il a tout mélangé. Ça lui a fait invoquer le pathologique, le biologique, la génétique. Il en a parlé à ma sœur. Il avait honte d'avoir transmis ses gènes dysfonctionnels. Elle n'a pas compris. Moi non plus. J'ai appris en transitionnant à l'âge adulte que mon père, qui n'avait pas de famille pour nous, ses enfants, en avait finalement une. J'ai appris qu'il avait eu une famille dont il avait honte et qu'il cachait à ses propres enfants. J'ai appris en transitionnant que les révélations de famille en entraînent souvent d'autres, plus impliquantes et plus profondes. J'ai appris du même coup qu'il avait honte de moi, de lui et de ses ascendants. J'ai vu à quel point cet homme fier était profondément blessé. Il a dit à ma sœur qu'il m'avait transmis le gène de la dépression. Il n'a rien dit de plus. Il s'est muré dans le silence. Je savais en transitionnant qu'il y avait d'autres choses très importantes pour moi que ma transition en tant que telle. Et cette nouvelle révélation l'a confirmée et renouvelée. J'ai appris que j'avais une histoire du côté de mon père et qu'il fallait que je creuse le silence. Une histoire que je lui ai demandé en lui laissant le temps et qu'il m'a résumé quelques années plus tard par 4 phrases courtes, très gênées. Il m'a raconté la misère sociale d'une campagne des années 50-60. Dur de ne pas faire de ce résumé un tableau étriqué, stéréotypé des pauvres. Mais quand je lui ai demandé plus de détails, il m'a dit que ça ne servait à rien. Que ce n'était pas intéressant de raconter ces vies-là, qu'il n'avait rien d'autre à en dire. C'est ça le mépris de classe, c'est d'avoir intériorisé que c'est seulement l'histoire de la monarchie, de l'église, de la bourgeoisie que l'on raconte, qui est importante. Pas celle des gens qui crèvent dans des HP, dans des prisons, à l'usine ou d'alcoolisme. C'est d'avoir tellement honte de la pauvreté qu'on cache sa propre histoire à ses enfants. C'est d'avoir peur qu'en l'invoquant, elle revienne nous hanter, un peu comme le malin, un peu comme ce gène que l'on transmet de génération en génération. Mais les malédictions, ça se brise. Et je n'ai jamais eu honte de mon père. En étant militant au début des années 2000, j'ai compris que l'histoire des pauvres, des personnes racisées, des minorisées de genre, était la plupart du temps racontée par des sociologues, des anthropologues ou des journalistes qui étaient souvent des gens bien intentionnés, politisés, sympas et qui avaient envie de rompre les idées reçues. Sauf qu'écrire à la place, ce n'est pas la même chose que raconter sa propre histoire et comprendre l'intérêt de le faire. J'aimerais, j'adorerais prendre l'argent de la publication de tous les livres de Françoise Sagan et des bourgeois bourgeoises qui racontent des anecdotes futiles sur des centaines de pages pour acheter avec plein d'enregistreurs et motiver, donner envie à des personnes de dérouler leur histoire, de se raconter soi-même et sortir de la honte qui donne des ulcères à l'estomac et qui fait crever. Raconter pour se donner de la force, pour se dire que nos vies comptent, même si elles n'ont rien d'extraordinaire.
Pas dit monsieur venez par ici, venez ceci, cela, ils sont venus, ils ont foncé sur moi, ils ont chargé, ils m'ont fait clé d'étranglement, ils m'ont fait plaquage ventral, ils m'ont la totale. J'ai été en garde à vue, mais j'ai passé la nuit à l'hôpital. Parce que j'étais pas apte à rester dans une cellule. Comment ils m'ont amoché, quoi. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on peut mourir à tout moment. Mon frère est mort dans les mêmes conditions. Et là, c'est moi, je me suis retrouvé dans cette position. Et ce qu'il faut dire, il y a eu la chance, il y avait des journalistes, il y avait des gens qui filmaient. Moi, mon frère, il n'a pas eu la chance que des gens puissent filmer. Donc, je vous laisse imaginer le calvaire qu'aurait pu subir mon frère sans les vidéos. Oui.
Tous pour la même chose, pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice et pour continuer à dénoncer les violences policières qui continuent de grandir de notre côté. Et on ne se laissera pas faire. Aujourd'hui, la France ne peut pas donner de leçons, de morale à aucun autre pays. Aujourd'hui, sa police est raciste, sa police est violente.
Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur,
et c'est un des thèmes importants de la campagne américaine. L'immigration est devenue un enjeu majeur aux États-Unis, en particulier l'immigration clandestine venue du Mexique. Pour y faire face, un mur de 5 mètres de haut a été érigé à la frontière. Un mur de la honte, disent certains, mais un mur qui ne semble pas empêcher celui qui, non pas par envie, mais par besoin, tente de fuir la misère. Reportage à Nogales, dans l'Arizona, Arnaud Buté, Olivier Robert.
J'ai honte de faire de la télé. Alors je vous demande, est-ce que c'est si pitoyable de faire de la télé?
Non.
Okay. Allez, un petit plaisir.
Ça devrait être interdit.
Et dire que pendant ce temps-là, la guerre continue de tourner.
Et nous, on est là, tranquille, avec nos décisions nobles.
Égoïste,
injuste.
Ah, j'ai honte.
C'est bon, la honte.
C'est noble, avec plaisir.
Oh, vous m'avez fait honte.
Le monde est à l'envers, s'il ne tourne pas très rond, s'il y a d'autres choses à faire que de chanter des chansons.
moi je veux aimer la vie jusqu'à ce temps où tout sera fini. Il n'y a pas d'autre être
sur le fil. On a écouté Youssouf Traoré qui nous parlait de sa garde à vue et comment ça s'est passé pour lui en marge de la manifestation pour commémorer son frère mort aux mains de la police. Et d'autres choses encore, d'autres samples. C'était le petit moment noise de Sur le fil qui était un petit moment noise à bout de souffle aujourd'hui. Les ordinateurs ont chaud. Problème technique en cascade, mais on l'a quand même fait.
Salut, salut, c'est Myriam pour une nouvelle capsule dédiée aux œuvres visuelles pour Sur le fil sur Radio Galère. Pour ce premier numéro sur le thème de la honte, j'avais bien plusieurs idées en tête. Je voulais vous parler de manga ou bien de Teen Horror, qui comme son nom l'indique, met en scène des adolescents, adolescentes dans des films d'horreur. Et puis finalement, ces dernières semaines auront été remplies d'images, plus honteuses les unes que les autres. Le meurtre de Naël, et avec cette vidéo, toutes les autres qu'elle charrie dans ma mémoire. Où la police est coupable d'agressions et crimes racistes, sur des enfants ou des adultes. Et les noms, où il n'y aura pas eu de vidéo pour venir contredire la version des forces de l'ordre. Ces images me paralysent, tout comme les discours. Plus abjectes les uns que les autres. Et puis, il y a ces énèmes rappels de réalités sociologiques dont le gouvernement, celui sous lequel nous vivons actuellement et ceux qui l'ont précédé, auront prouvé qu'ils n'en ont rien à foutre. Il y aura même ce que l'on appelle désormais la cagnotte de la honte, amassant un soutien sans pareil pour un meurtrier d'enfants et une institution colonialiste réprimant les corps et les esprits ne marchant pas à son pas de loi. Paralysée et triste, parce que je ne comprends pas, pour emprunter ces mots à Diaty Diallo, autrice du roman « Deux secondes d'air qui brûle », que protéger des enfants, des jeunes, ne soit pas inconditionnel pour toutes et tous. Face à cet écœurement, j'ai voulu parler de la chanson de Diems, « Ma France à moi », où le refrain dit « C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge ». Diems, pour une milléniale comme moi, c'est une icône. De son nom, Mélanie Georgiade, elle perce en 2003 avec le titre DJ, tiré de son deuxième album, Brut de femme. Le titre dont je parle ici est lui issu de son troisième album, Dans ma bulle, sorti en 2006, soit quelques mois après ce que l'on appelle désormais les émeutes de 2005, qui aura vu des révoltes et soulèvements populaires pour dénoncer les morts de Zayed Bena et Bouna Traoré, respectivement 15 et 17 ans, voulant fuir un contrôle de police. En octobre 2005, j'ai 16 ans. Je suis au lycée et ça fait quelques années que le monde devient toujours plus grand, toujours plus complexe. Ma France à moi est un single. Le clip passe alors sur toutes les chaînes musicales. Un homme raciste se voit poursuivi, de poste de radio en poste de radio, par la chanson et les regards des figurants et figurantes, tranquilles mais puissants. La honte change de camp. Comme souvent avec Diams, qui a 26 ans à ce moment, le texte est dédié à la jeunesse. En particulier celle des bâtiments, des banlieues, périphérie stigmatisée des villes, une jeunesse désignée alors comme homogène et, comme le dit Diams, largement incomprise, qui fait tant parler d'elle lors de la décennie 2000, au travers de reportages, livres et films plus sordides les uns que les autres. Des représentations caricaturales, soit déformées ou même carrément fausses, montées de toutes pièces pour renforcer la honte et broyer l'estime de soi et de nos communautés. Diams y oppose un autre son de cloche. Une fierté, une revendication, un amour inconditionnel, justement, à la jeunesse, dont c'est le droit de s'amuser, de faire des bêtises et d'être insouciante. Le monde, la bulle, de Diams, est parcouru par l'ouverture de nos horizons, avec la démocratisation du numérique et des technologies, où en tant qu'ados, nous voyons nos temps et nos relations s'étendre sur les espaces virtuels et au-delà des frontières de nos villes, de la France et de l'Europe. C'est un quotidien fait de plein de petites choses qui s'additionnent et s'accumulent même, qui remplissent le temps et les pensées. Une jeunesse pleine de différences et de trajectoires multiples. Un appel à la solidarité. C'est aussi le droit de se révolter, lutter pour un monde plus juste qui nous fait défaut. Un cri de rage pour la chanteuse, le seum contre une France intolérante et gênante qui contrôle, punit et assassine. Ce que Diems revendique dans ses textes, c'est bien le droit à la joie, à la légèreté et à la dignité. Et de fait, l'autonomie politique d'agir et de se définir pour des populations des territoires que le pouvoir s'efforce de condamner par délits de faciès, de compte en banque ou de capital matériel. Aujourd'hui, Mélanie Georgiade a raccroché le micro, quitté le monde de la musique. Elle ne souhaite plus performer les chansons qu'elle aura faites sous le pseudo de Diams. alors j'aimerais lui demander pardon de l'avoir mise en lumière le temps de cette chronique. Ainsi, Diams devient une figure, un personnage que j'aime imaginer en héroïne de shonen, se battant contre la tolérance et pour ce en quoi elle croit juste, entourée de son crew au nom de la liberté. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous laisse avec le dernier couplet de « Ma France à moi » de Diams.
A besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM. Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes. Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés. Celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte. Cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'Orange et Anne. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
Sur le fil, sur le fil, sur le fil, c'est la fin.
C'est la fin de la programmation qu'on vous avait concoctée. On espère que ça vous a plu.
Et on se retrouve à la rentrée.
Sur le fil, prends des vacances.
Passez une bonne fin de journée.
Bon été, salut.
You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Is that a shame? You're the one to blame. You broke my heart. When you said we'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? My tears feel like rain.